Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Nous sommes aujourd'hui au tribunal d'instance d'Arras, dans la région des Hauts-de-France, département du Pas-de-Calais, un mardi matin entre 9h et 15h. Ce jour-là, dans le bureau de la juge Véronique Delélis, ce sont 22 personnes qui ont été convoquées pour examiner leur situation de surendettement. Au terme de leur audience, le juge pourra prononcer ou pas une mesure de rétablissement personnel, c'est-à-dire un effacement total ou partiel des créances, ou un plan de remboursement des dettes qui ne doit pas excéder 8 ans. Cela se passe ainsi deux fois par mois et avant d'arriver dans ce bureau, il a été établi que ces personnes, pour reprendre la formule ad hoc, se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise. Ce ne sont plus seulement aujourd'hui les crédits à la consommation qui poussent les ménages à la faillite personnelle, mais des dettes de loyer, des trop-perçus non remboursables, des situations de précarité, voire de grande précarité qui ne vont pas en s'améliorant. Il faut dire que feu le département du Pas-de-Calais, avec 20,3% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, est au-dessus de la moyenne nationale qui situe tout de même à 14%. Plus d'un Français sur 10 donc vit en dessous du seuil de pauvreté et parmi eux, combien de gilets jaunes? Pour l'heure, nous nous sommes glissés dans le bureau de la juge et on se félicitera tout de même, malgré les rudes destins qui défilent, qu'il existe encore de telles personnes et de telles procédures, mais pour combien de temps? Tout de suite, c'est les pieds sur terre et notre contribution au grand débat national.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, madame a déposé un dossier pour une situation de surendettement qui n'est pas colossale en termes de montant de surendettement. Il y a grosso modo 7000 euros de dettes, 4000 euros au regard de dettes de charges courantes, hein, madame, des loyers et des charges de la vie courante. Et le surplus, c'est une dette concernant un véhicule. Donc madame a 4 enfants, elle n'a pas de qualification professionnelle. Hein, c'est ça, madame? Je ne vais pas vous faire pleurer dans le
fion. C'est juste qu'il m'en a tellement fait pas avec, quoi.
Elle a que comme revenu que les prestations sociales et familiales, donc on est dans les minima sociaux. Donc vos revenus, ça s'est mis à 1128,26 €.
Oui.
Voilà. Vous avez travaillé dans...
Non, jamais.
Jamais?
Non. Donc j'ai aucun diplôme.
Et sur le marché de l'emploi avec 4 enfants, c'est difficile.
Surtout sans permis.
Et vous êtes en permis.
Alors c'est lui qui récupère la voiture et puis c'est moi qui se retrouve à pied avec les 4 enfants.
Et
c'est
pas... pour dire. Donc voilà.
Parce que j'ai eu un courrier de ce monsieur justement, c'est pour la voiture, c'est ça qui m'attaque, c'est ça?
C'est le CGI qui a fait un recours effectivement.
Ouais, parce que j'ai vu qu'il m'a noté sur un courrier en disant que j'étais jeune, j'avais 32 ans, je pouvais me permettre de trouver un stage. Je veux bien, pas de soucis, s'il me trouve un stage, j'y vais, go. Mais ce que je comprends pas, c'est que monsieur, je sais pas si c'est ce monsieur-là qui a reçu mon mari en ce temps-là.
Non, ça fait de chance que ça soit le même.
Ouais, franchement, là, ça m'a mis un peu l'eau à la tête parce que je me suis dit, déjà, ils font mal leur travail parce que déjà, pour l'histoire de la signature, je n'étais même pas là.
Vous contestez votre signature?
Ah oui, ce n'est pas ma signature. Je suis désolée, je vais vous montrer ma carte d'identité. Donc, je comprends pas qu'ils se détournent contre moi, cette société-là, alors que je n'ai pas signé. Et en plus, je n'ai même pas le permis. Et c'est même pas moi qui ai récupéré la voiture. Là, je comprends pas.
On va noter, madame conteste sa signature, effectivement, ça va un peu différent. Vous avez un stylo, madame?
Déjà, pour mes papiers, c'est pas moi qui se débrouille, c'est mes amis qui m'aident parce que je comprends rien. Donc là...
Vous allez signer 5 fois de suite sans réfléchir.
D'accord.
Il en perd de signature de madame, vous pouvez noter. Bon, je vous rends votre carte d'identité.
Merci.
Mais peut-être que vous auriez pu, au fait, contester votre signature aussi, peut-être.
Mais je savais même pas, ces histoires-là, je les connais même pas, moi, pour un crédit. Je veux dire, vous allez me dire, allez faire un crédit, je sais même pas comment ça fonctionne. J'ai des papiers, je les reçois chez moi, je sais pas moi qui les remplis, je vous dis, c'est mon ami qui me les remplit. Et les papiers, j'ai jamais vu les papiers. J'ai vu qu'il est revenu avec une nouvelle voiture. Moi, je savais pas qu'il fallait un coopérateur, j'en sais rien, j'ai jamais passé
en
par là.
En même temps, en plus de CGL, vous avez quand même 3000 euros de dette. Alors, est-ce qu'on est en recours sur orientation?
C'est bon.
Ouais, parce que
Bah parce que là, ils vous ont orienté, ils ont dit non, madame n'a pas de capacité de remboursement, elle peut pas payer, on fait pas les mesures classiques, donc on passe en rétablissement personnel. Est-ce que vous êtes d'accord pour le rétablissement personnel?
Ça veut dire quoi?
Eh ben, effacement des dettes.
Ouais.
Oui.
Moi, je vous dis, ce qui m'embête le plus, c'est pour cette voiture.
Voilà. Donc, vous êtes d'accord sur le principe de l'effacement? Ça veut dire, en gros, l'effacement des dettes que vous avez, effectivement. Mm-hmm. Est-ce que j'ai résumé
De toute façon, la plupart des choses que vous avez dit, j'ai pas très bien compris, mais bon, c'est pas grave. On n'est pas là pour faire du mal, hein.
Non, mais vous avez compris quand même, c'est l'orientation du dossier. Bah, non, l'histoire de la contestation de la signature, vous l'avez comprise. Bah, c'est vous-même qui l'avez posée, d'ailleurs.
De toute façon, je vais pas l'inventer. C'est parce qu'il m'a envoyé le contrat il y a pas longtemps.
Oui, oui.
J'ai tombé des nunus. Quand j'ai découvert la signature, je me suis dit, écoute, et quand j'ai posé la question à mon amie, elle m'a dit, il a signé pour toi. Je me suis dit, ce délire, là.
Voilà, donc vous avez compris, c'est le 20 mars 2020. Pourquoi vous déplacer? Non, non,
non.
Vous n'avez pas quelque chose à vous aurez la copie.
Oui, le dossier qu'on nous a envoyé par courrier.
Je vais aller prendre le petit tableau là. Oui, allez, madame.
Bien.
Je vous remercie.
Au revoir.
Bonne journée. Bonne journée.
Merci. Donc là, vous sortez de l'audience. Comment vous sentez?
Un peu mieux quand même.
Pourquoi?
Parce qu'on m'a écouté, quoi. Je vois pas pourquoi je vais payer pour une voiture alors que c'est pas moi qui ai fait le crédit. J'ai pas signé. J'ai quand même 4 enfants en charge, faut pas rigoler, quoi. C'est... Si les messieurs ont le droit de faire des crédits, c'est après quand t'as des séparations, c'est les femmes qui récoltent tout, je suis pas d'accord. Alors qu'il est pas capable de payer pour son alimentaire, c'est pas moi qui récupère la voiture, j'ai pas le permis.
Ça faisait combien de temps que vous connaissiez?
Bon, on s'est mariés en 2007. Et on a passé récemment au tribunal aussi parce que la violence et tout, donc vous imaginez un peu ce que j'ai bavé.
Mais il s'est passé quelque chose de particulier?
On m'a violenté devant les enfants. Il y a eu des problèmes d'alcool. C'est parti très loin, il y a eu des rapports d'école de fait, aux instances sociales, aux juges.
Ce que les enfants y racontent aux professeurs?
Voilà. J'en ai bavé pendant plusieurs mois. Et comme j'ai les 4 enfants, c'est pas évident de pouvoir les garder. J'ai pas de famille, j'ai personne, donc voilà quoi. Donc tous les soucis que j'ai, je les règle tout seul. Je suis allée d'abord au CSAS de Méricourt, ceux qui m'ont indiqué pour faire un dossier de surendettement. Et puis après, c'est les instances sociales qui se sont mis avec moi et puis m'ont aidée. J'ai vécu un calvaire. Puis la preuve, j'étais au commissariat, j'ai porté plainte pour violence conjugale, il s'en est bien sorti. Il n'y a rien eu derrière, c'était une affaire classée. Et pourtant, les enfants étaient auditionnés. Ils ont passé des journées complètes au commissariat, les 4. On est sortis, là, il était 19h. Le procureur a décidé que l'affaire était classée, point. Pour moi, franchement, il n'y a pas de justice. Ce que j'ai dit au commissariat, après on dit, les femmes battues, faut qu'ils parlent, faut qu'ils agissent. Quand on appelle les flics, c'est nous qui se fait incendier. Ah, moi, je me suis fait maltraiter par le commissariat d'Avin. Ah ouais. J'ai dit, la prochaine fois, je ne cherche pas midi 14h, je le plante. Je ferai la justice moi-même.
Comment ça,
planter? Attendez, vous faites appel aux flics que vous avez sur votre gueule. Franchement, en étant poli, hein. Vous êtes en train de vous faire violenter devant les gosses, on appelle la police, ils agissent même pas. Ils se foutent de votre gueule. Bah, autant agir soi-même. Faut plus me laisser faire. Ça sert à rien. La justice, elle sert à quoi? À rien. Et pour des histoires de voisinage, c'est les premiers. Ah, ils sont là tout de suite.
Donc aujourd'hui, vous vivez seul?
Ah oui, seul avec mes 4 enfants. Voilà. Ça tranquille, chacun de son côté, voilà quoi.
Et comment vous voyez l'avenir?
J'en sais rien.
Vous gardez le moral quand même?
Ça dépend des jours.
Vous, le 9 novembre 2010, donc ça date déjà un petit peu. Vous êtes âgée de 35 ou 36 ans?
Je vais avoir 36 ans.
Bon, vous avez 2 enfants à charge et vous êtes divorcée. Voilà. Et monsieur, c'est...
C'est mon nouveau conjoint.
Vous ne travaillez pas, madame?
Je ne travaille plus, je suis en congé parental depuis le 2 octobre 2010.
Les 2 enfants, ce sont les vôtres à vous toutes seules? Enfin, pas à monsieur, il n'y a pas d'enfant commun.
J'ai un garçon de mon premier mariage et ma fille.
Oui, l'enfant qui était à bébé, là, c'est un enfant commun.
Voilà.
D'accord. Bon. En termes de ressources propres, madame, donc vous êtes en congé parental. Mm-hmm. Donc ça n'a pas dû beaucoup se modifier par rapport à la décision de la commission.
Ça s'est modifié, là, en novembre 2011.
Oui.
J'ai la CAF qui m'a trouvé un indu de 4 318,11 € à rembourser. Et actuellement, il me retire 125,40 € sur mes prestations familiales. Donc j'ai mon APL qui a baissé, j'ai les impôts, taxes d'habitation qui me sont tombées dessus au mois de novembre 2011. Fin 2011, j'ai un peu tout qui m'est retombé dessus, quoi. J'ai les ordures ménagères, c'est pareil.
Pourquoi c'est indu de prestation familiale?
Bah apparemment, ils n'ont pas fait correctement mon dossier. Et, c'est une dette que je dois de mai 2010 à décembre 2010. Et ils me l'ont réclamé un an après. Mais apparemment, ils n'ont pas pris en compte mon nouveau dossier. Ils ont perdu des éléments de mon dossier. Donc ils m'ont versé. Puis au bout d'un an, ils se sont aperçus qu'ils m'avaient trop versé.
Et puis la pension alimentaire de votre conjoint pour l'enfant?
Mon premier garçon.
Votre premier garçon.
Je ne le touche pas depuis 9 mois.
Normalement, la question familiale, elle peut vous verser l'allocation de soutien familial recouvrable.
Je n'y ai pas le droit parce que je reçois avec un nouveau conjoint. Donc pour l'instant, bah, je me bats avec mon ex-mari pour pouvoir récupérer ma pension alimentaire de mon fils.
Ils ont tenu compte de la situation de la présence de monsieur virtuellement dans le dossier. Donc vous, monsieur, vous avez un revenu de 1200 euros par mois, c'est ça?
Oui, à peu près.
Et vous payez une pension alimentaire de 100 euros par mois?
Non, maintenant, elle augmente à 150.
150, oui, c'est ça. C'était le motif du recours, c'est ça. Et vous avez aussi vos propres prêts.
Voilà.
Bon.
Le problème, c'est que bah, tout a augmenté, en fait. C'est ce que j'expliquais. J'ai pas de pension alimentaire. Lui, la sienne, elle a augmenté. On a notre électricité qui a augmenté. L'APL, elle vient de descendre. Je refuse pas de payer. Hein. J'ai fait des dettes, je sais les assumer. Comme mon ex-mari ne travaillait pas, qu'il était saisonnier, ils se sont tous rabattus sur moi, les créanciers.
Ouais.
Parce que moi, j'ai un travail depuis 14 ans. J'ai jamais arrêté de travailler, à part là, depuis un an et demi, que j'ai pris un congé parental. Parce que si je mets mes enfants en nourrice, ça va me coûter plus cher à mettre mes enfants en nourrice qu'aller travailler. J'étais agent d'entretien dans une boucherie charcuterie, donc ça me faisait lever à 3h30 du matin, mettre mes enfants en nourrice à 3h30 du matin, et puis bah, finir à 19h le soir et les récupérer qu'à 19h le soir. Travailler le mercredi, travailler le samedi, travailler le dimanche. Donc voilà, après j'ai fait un choix d'arrêter de travailler, ce qui me plaît pas, parce que j'ai toujours travaillé, mais bon, j'ai fait un choix d'arrêter de travailler par obligation.
Et voir que je recalcule tout ça, c'est un peu compliqué, parce que bon, on est sur des situations un peu compliquées.
Oui.
À tout niveau. Bon, la commission, elle est arrivée à une mensualité de 103 euros.
C'est impossible. J'ai que 400 euros pour moi vivre et encore, je fais tout moi-même. Je fais mes yaourts moi-même, je fais mes pâtes, tout ça. Je fais tout moi-même. Jusqu'à ma lessive que j'apprends à la faire moi-même pour dire plus acheter de lessive en magasin. Je suis à un point où j'en arrive à... Bah, en fait, on est maison, monsieur boulot, et puis bah, on sort plus, on fait plus rien. On fait plus rien. Mon fils, bah, c'est tous des vêtements d'occasion qu'il a sur le dos. On se permet même pas d'aller dans les magasins pour acheter des vêtements neufs à nos enfants. Jusqu'aux chaussures. Pourtant, des chaussures à ma fille de 18 mois, c'est des chaussures neuves qu'il lui faut. Mais non, je peux pas. On a beaucoup fait de sacrifices, mais bon, là, on a un point où on peut plus, quoi.
Actuellement, votre endettement, madame, est chiffré à 21 000 euros, enfin 21 800 d'ailleurs. Vous vous dites, à la limite, si la capacité de remboursement, c'est zéro.
C'est zéro, surtout que là, avec la CAF qui m'est tombée dessus avec 125 euros, j'ai plus que 570 euros pour moi vivre, plus le salaire de monsieur. Mais le salaire de monsieur, il couvre déjà une bonne partie des charges. Donc,
plus mes crédits.
Plus tes crédits, oui.
Votre congé parental, il peut durer jusqu'à quand, là?
2013.
Et après, vous pourriez récupérer un salaire de
900 euros.
900 euros.
Encore, parce que, ouais, il parle encore de me diminuer mes heures, peut-être voire me licencier. Donc...
Vous n'avez aucun bien, vous êtes...
J'ai plus rien à moi. J'ai plus rien à moi. J'ai plus rien, j'ai tout perdu quand j'ai divorcé. La seule chose qui me reste, c'est mes enfants.
Bon, ben, je vais regarder tout ça avec attention. Bon, c'est un peu compliqué au plan d'économie de la décision. Vous aurez la décision le 20 mars 2012.
Je vous remercie beaucoup.
Je vous remercie.
Voilà,
bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Madame Thiot. Alors, madame, vous avez déposé ce dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 25 août 2011. Alors, je sais de vous que vous êtes sans profession depuis décembre 2005.
Alors, j'ai repris un contrat en décembre 2011, cette année-là.
Un CDI?
Non, un contrat de 6 mois seulement.
Vous avez donc toujours 3 enfants, ça tient toujours.
Ça tient toujours.
Et à l'époque, vous aviez un revenu qui était limité aux prestations sociales et familiales. C'est-à-dire que c'était un total de APL, prestations familiales, RSA et la contribution alimentaire du père pour vos enfants. Soit un ensemble de ressources évalué à 1 311 euros et des charges à 1 911 euros. Et donc ça ne dégageait évidemment aucune capacité de remboursement. Je crois que vous avez un BEP comptabilité, c'est ça?
Oui.
Et vous n'avez pas travaillé depuis 2005, enfin jusqu'à décembre 2011.
J'avais pas travaillé.
Période d'inactivité, pour les enfants peut-être d'ailleurs.
Pour les enfants.
Alors votre relevé CAF, vous l'avez?
Oui.
On va tout noter très soigneusement. 807 euros. Donc il y a toujours un petit complément RSA en fait.
Oui, donc, je suis à contrat d'insertion.
D'accord, il y a 1063 euros donc, de prestations familiales, plus 800 euros de salaire. C'est ça, hein? 1883 euros de revenus. Avec 3 enfants. Plus une pension alimentaire.
J'ai une facture de cantine aussi, je suis à presque 300 euros de cantine mensuelle.
Par mois.
Je suis obligée de les mettre en cantine, moi travaillant, je ne peux pas rentrer midi. Après, j'ai des assurances scooters que je n'avais pas avant, parce que je suis obligée de partir travailler.
Mm-hmm. D'accord. Donc, vous avez compris la commission, sa décision. Enfin, ça n'est pas sa décision, mais ce qu'elle avait recommandé.
Non, c'était, je ne pas.
Elle avait dit, madame n'a aucune capacité de remboursement, donc 0 euros. Donc, on va faire un rétablissement personnel. Mais comme elle a un immeuble, on va faire une liquidation judiciaire pour vendre l'immeuble. Par la voie d'un...
Mais pourquoi la banque refuse que je reprenne avec le prêt, sachant qu'en liquidation, je vais perdre beaucoup plus et je vais devoir rembourser cette maison? Le logement que je loue là, j'ai 50 mètres carrés et une chambre. Mm-hmm. J'ai 3 enfants. Mes enfants n'ont plus rien. Ça fait 3 ans que je vis comme ça. Mon garçon a pris 30 kilos là sur 3 ans depuis le temps que j'habite ce logement. Il a 12 ans. Il fait 80 kilos.
Est-ce que vous estimez qu'à ce jour, vous avez des facultés de remboursement, vous, comme ça
En recalculant sur 20 ans mon prêt, j'aurai une mensualité de 565. Si je reprends la maison, ça me coûterait beaucoup moins cher qu'une location. 560 euros, je suis capable de rembourser ça en loyer, sachant que j'ai mon APL derrière. Mm-hmm. C'est ce que j'essaie d'expliquer à la banque, mais même la banque ne me répond pas, à part me mettre une assignation au tribunal.
Bien, donc j'aurai ma décision le 20 mars 2011. De 2012, j'en ai en 2012. Oui. Voilà, bah vous pouvez y aller.
Merci.
Bonne journée.
Au revoir. Au revoir.
Succinct.
C'est parfait, je me suis en demande. La commission de surendettement, elle vous a déclaré recevable, hein. Ça c'est la décision du 4 août.
Mmh.
Eux, ils avaient inscrit, en fait, dans les éléments origine de la situation de surendettement, éléments clés du dossier, ils avaient indiqué endettement non maîtrisé, milieu intellectuel non carencé, ça veut dire que, bon, c'est plutôt bien pour vous qu'on le dise que vous n'êtes pas carencé, mais du point de vue du surendettement, c'est plutôt un malus, enfin, c'est pas un malus, je dis pas que c'est un malus définitif, mais on dit, monsieur, madame, ont un niveau intellectuel pour savoir quand même ce qu'ils font et ne pas soit se laisser avoir par les organismes de crédit ou comprendre ce que c'est qu'un budget.
Nous avons effectivement reçu les conclusions de la GE.
Oui.
Qui nous a quand même beaucoup interloqué sur des choses qui nous semblent pas du tout fondées, car même si notre montant de ressources 2011-2012 est identique à celui de 2005, excusez-moi du peu, mais entre 2005 et 2011, ça a été une traversée des croisées dans le sens où on a eu, et mon épouse peut très largement témoigner, un parcours professionnel malheureux et chaotique. Quant à moi, j'ai eu une perte significative de salaire et mon épouse a joué entre pratiquement 2 ans de chômage cumulé. Excusez-moi du peu, mais avec 35 euros de montant journalier net, car Pôle emploi reprend 57% du brut.
Oui.
35 euros journaliers par 30 jours, ça fait 1100 euros net sur 1400 ou 1500 à l'origine.
En 2005, vous faites ce prêt à la restructuration, oui. Donc j'imagine que pour vous, c'est l'idée de repartir sur des bases rationnelles. Madame, vous avez quelle profession à l'époque ?
Je suis donc déléguée pharmaceutique, toujours d'ailleurs, même à l'époque, hein, déléguée médicale même à l'époque.
Vous présentez des médicaments aux médecins, des choses comme ça ?
Médecins et pharmaciens.
D'accord.
Bah, j'ai le récapitulatif des périodes de chômage, en fait.
D'accord. Voilà. Tout ça, je vais le prendre, parce que c'est très important, puisque dans votre dossier, tous les événements sont importants pour apprécier...
On voulait repartir sur de bonnes bases, et effectivement, catastrophe, perte d'emploi, qui a quand même duré 192 jours. jours. Et là, j'ai reperdu mon emploi, là, récemment, en octobre.
Donc là, actuellement, vous êtes au chômage.
Oui.
On va quand même reprendre votre situation. Octobre. Donc, votre allocation, vous touchez combien?
Je suis à 1700 net mensuel.
1700 net mensuel.
1700 net mensuel. Et vous, monsieur, alors, qu'est-ce que vous avez subi pendant cette période-là? J'essaie de voir ce qui peut expliquer
une rechute. Bien sûr, je suis en poste depuis le 6 novembre 2000, toujours chez Polydis. Je suis délégué pharmaceutique.
Aussi.
D'accord. Mais depuis 12 ans. Là, je me situe à 1500 euros net mensuel,
oui.
En moyenne.
Il y a vos fiches de paie, là, dans le dossier?
Non.
Ah, il faudra m'en envoyer.
Oui.
D'accord. Alors, 2005, donc vous faites ce prêt à la restructuration, donc... Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez le chômage.
Alors, en décembre 2005, donc période de chômage, 35,04 par jour en indemnité journalière. Il faut savoir que, comme dit la GE, nous n'avons pas un train de vie surestimé. Nous n'avons pas de véhicule personnel. Nous n'avons que des choses d'occasion. Nous ne sommes pas partis en vacances.
Vous vous souvenez un peu du schéma de votre surendettement après le prêt de 2005.
Il y a eu la spirale infernale.
La spirale,
on a oui. Mal géré, ça c'est clair.
On a c'est clair qu'on a mal géré sur des promesses de primes au niveau salaire par cycle de vente qui ne tombaient pas forcément que l'on pensait avoir. Je tiens à dire aussi une chose qui est très très importante, c'est qu'entre 2005 et 2011, nous avons fait énormément de recours avant de décider vraiment de faire un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Je continue. On est passé par notre principale banque, qui est le Crédit Agricole. Oui. On a mis 3 ou 4 mois à avoir une délibération auprès d'un courtier qui nous prétendait pouvoir trouver une solution. Et le problème qui s'est posé, c'est que ça n'a pas pu se faire pour une raison très simple, c'est que ce courtier se prend 10% de commission. Donc en dernier recours, on n'avait jamais eu d'impayé, on a toujours tout honoré. Mais en juin 2011, on s'est dit c'est plus possible. Donc on va établir un dossier complet. Mmh. Voilà. Donc il y a eu quand même beaucoup de tentatives intermédiaires.
Vous espérez quoi, vous, pour régler votre situation dans le cadre si la décision continuait?
Ce qu'on souhaite, effectivement, c'est rembourser nos créanciers. Ouais. Sauf que les taux d'intérêt sont vraiment élevés. On ne peut pas, effectivement, vendre notre bien, parce que c'est la seule chose qu'on ait pu construire jusqu'à présent.
Moi, je vais arbitrer sur votre bonne ou votre mauvaise foi. C'est-à-dire, est-ce que monsieur et madame se sont endettés au mépris, finalement, des intérêts des autres, etc., etc. Bon, j'ai recueilli vos explications. Je vous entends. Vous m'avez fait un dossier. Bon, je vais regarder tout ça avec beaucoup d'attention. Après, être déclaré recevable, je ne vous garantis rien sur le sort non plus de votre maison. Parce que le problème, c'est que vous avez 234 000 euros de dette. Un plan... Madame la greffière, elle va vous calculer. Alors, on va calculer, on va diviser 234 000 euros par 96, 8 ans.
On est à 2437.
Il faudrait donc que vous remboursiez 2437 euros par mois pour rembourser tous vos créanciers. Si on dit, monsieur, madame, non, vous ne pouvez pas rembourser 2437 euros, alors on va dire, monsieur, madame, vous allez rembourser, par exemple, 1000 euros. Alors, si vous remboursez 1000 euros, ça fait 96 000 euros. Quand vous aurez remboursé vos 96 000 euros dans le plan, 8 ans, on ne peut pas aller au-delà, c'est la loi. Quand vous aurez remboursé vos 96 000 euros, on fera 234 moins 96 000, 138 000 euros qu'il faudra effacer. Oui. Pour effacer, dire, monsieur, madame, n'ont plus de dette. Mais les créanciers vont dire, mais attendez, on vous a effacé 138 000 euros, mais ils vont dire, monsieur et madame constituent leur patrimoine sur notre dos. Enfin, c'est un peu ça, si vous voulez. Voilà. J'espère vous avoir expliqué les difficultés sur la recevabilité, savoir comment vous avez constitué votre endettement. Bon, ça, on verra. Mais je vous invite fortement à réfléchir. Je vous le dis honnêtement aussi sur la vente de... Je suis un peu obligée de vous le dire à ce stade-là, sur la vente de votre immeuble.
On a fait cette démarche auprès de la Banque de France parce que, justement, comme disait très légitimement mon épouse, on voulait...
On voulait trouver une autre solution.
On voulait trouver une autre alternative.
Oui, mais ça, le surendettement ne va pas garantir ça. L'idée, c'est pas de se constituer non plus, de garder un patrimoine.
Oui, je sais bien.
Non, mais bien sûr.
Au détriment de ses créanciers. Oui. Sinon, à ce moment-là, il n'y a plus moyen que personne ne régler ses dettes non plus. Ce serait choquant qu'il y ait 130 000 euros de dettes effacées alors que vous avez un immeuble. Hein. C'est bien. Pour l'instant, vous avez un seul problème, c'est la recevabilité. Ça, je vais regarder ça de près.
D'accord.
Et après, on verra. Voilà.
D'accord. Très bien.
Au revoir, monsieur. Au revoir.
Bon courage.
C'était Les Pieds sur Terre avec des audiences de surendettement, un reportage de Pauline Mocor réalisé par Alexandra Malka avec un coup de main de François Connac. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 22 février 2012, mais remis à jour notamment par notre stagiaire qui s'appelle Nino Lima. Merci à Véronique Delélis, à Marie-Astrid Lecomte, à Émilie Péqueux, à Philippe Flores, à Estelle Ferrari de la DOC de Radio France. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre.